affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Bonjour, vous êtes à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Comme beaucoup de nos auditeurs, vous êtes probablement attachés à notre antenne parce qu'elle se donne le temps d'aller au-delà de l'écume de l'actualité, parce qu'elle s'attache à donner du sens et des repères, à retrouver une certaine profondeur historique. Si tel est le cas, alors l'émission de ce jour va certainement vous séduire, car elle est consacrée à une période historique qui est aussi une contrée de notre imaginaire. Nous allons aussi plonger au tréfonds de notre histoire nationale et de notre culture pour visiter au détour d'un chemin une province qui est aussi celle de notre enfance. Vous l'avez certainement compris, nous allons consacrer cette émission au Moyen-Âge. Et pour nous guider dans cette exploration, nous avons le plaisir de recevoir Michel Zinck. Michel Zinck, bonjour.
Bonjour.
Michel Zinck, vous êtes professeur au Collège de France, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et vous venez de publier aux éditions des Équateurs un ouvrage titré « Bienvenue au Moyen-Âge ». Alors si j'ai évoqué cette idée d'une province de l'enfance, c'est parce que les premières lignes de votre ouvrage sont consacrées justement à cette idée. Vous écrivez « Au tournant du sentier l'aventure, c'est elle que cherche l'enfant ». Dans un Moyen-Âge qu'il confond avec la forêt de ses vacances, le mystère des contes, l'envoûtement de la féerie, l'éclat généreux de la chevalerie. Plus tard, à l'âge où dans la forêt trop familière, son cœur ne bat plus dans l'attente de ce que révélera le prochain tournant du sentier, la poésie du Moyen-Âge lui offre une autre aventure où il poursuit un écho à la fois proche et lointain de sa vie. Les souffrances d'un premier amour, il les vit à travers les poèmes des troubadours, tout tremblant de respect, d'effroi et de désir. Ses inquiétudes religieuses, il les confronte à la fois médiévales, grave et audacieuse. Est-ce que ces premières lignes, pardonnez-moi cette question un peu personnelle, représentent les premiers attraits que vous avez ressentis pour la littérature
oui,
médiévale?
Bien évidemment, l'enfance et moi, mais je ne voulais pas commencer de façon trop personnelle, et pourtant je l'ai fait d'une façon sans doute un peu trop personnelle en effet. Mais enfin, il faut dire, le livre est effectivement publié par les éditions des Équateurs, mais c'est une co-édition France Inter Les Équateurs. Ce sont des émissions de radio et j'ai ajouté ce petit avant-propos in extremis. Je ne l'ai pas déversé sur les ondes. Quoi que c'est bien ce que,
ce que nous
faisons en ce moment.
Par ma faute. Le Moyen-Âge, toutefois, dites-vous aussi, est une période avec laquelle nous entretenons une relation un petit peu ambivalente et particulière. Est à la fois un objet d'attirance et de répulsion. Votre cœur va clairement dans une direction.
Oui. Quand nous pensons au Moyen-Âge comme période historique, très souvent, la répulsion domine, ou au moins dans les usages ou nos tics de langage et de pensée. Nous disons, nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Dès qu'un régime est tyrannique ou un système judiciaire cruel, nous référons au Moyen-Âge. C'est encore le Moyen-Âge. Et pourtant, nous sommes attirés par le Moyen-Âge, mais un autre Moyen-Âge, le Moyen-Âge des légendes, des récits, des poèmes. Notre imagination, notre sensibilité poétique ont été modelés sans que nous le sachions souvent, sans que nous en ayons conscience, par le Moyen-Âge. Et sans chercher à savoir si le Moyen-Âge réel a été plus ou moins cruel que notre époque, tous y discutent, eh bien, nous pouvons nous tourner sans réticence et sans arrière-pensée vers ce Moyen-Âge poétique qui nous comble.
Le terme même de Moyen-Âge, d'ailleurs, est un petit peu curieux. Moyen-Âge, pourquoi ?
Parce que... Et oui, le Moyen-Âge, c'est... vous savez, on disait, les rentiers disaient, nous autres chevaliers du Moyen-Âge. Non, au Moyen-Âge, on ne parlait pas de Moyen-Âge, puisque Moyen-Âge, c'est une époque intermédiaire. Voilà. Donc, intermédiaire entre le passé et l'époque où se trouvent ceux qui définissent un Moyen-Âge. Mais très vite, on a défini une époque moyenne, intermédiaire, entre l'âge à l'époque contemporain et l'Antiquité. Très vite, c'est-à-dire dès la fin du XVIe siècle, on a dit qu'il y avait cette époque médiane entre la chute de l'Empire romain et la Renaissance des lettres. Et voyez, la définition était littéraire et culturelle. La chute de l'Empire romain n'était pas sentie comme un événement politique, sinon on aurait dit, comme nous disons aujourd'hui, de la chute de l'Empire romain d'Occident à la prise de Constantinople et à la chute de l'Empire romain d'Orient. Non, on voyait une sorte de régression culturelle avec un écroulement de la civilisation latine classique et à l'âge qui était senti comme une renaissance, un retour à l'Antiquité, à une époque où on n'a pas l'idée d'un progrès indéfini et où le progrès, c'est de revenir à l'Antiquité. Mais même là, la définition du Moyen-Âge était ambiguë parce que le Moyen-Âge lui-même s'est voulu comme une perpétuelle renaissance. Périodiquement, il s'est tourné vers cette civilisation antique et ce beau latin qui le fascinait à l'époque carolingienne, lors de ce qu'on appelle la Renaissance du XIIe siècle, à l'époque humaniste. Mais l'époque humaniste, c'est le tout début du XIVe siècle en Italie et c'est le XVIe siècle en France. Donc finalement, l'époque se dissout un petit peu et elle revit finalement dans l'unité que nous-mêmes, nous lui donnons rétrospectivement.
Et dans votre ouvrage, donc, qui regroupe un certain nombre de chroniques radiophoniques, vous citez un texte d'ailleurs de Chrétien de Troyes qui, dans les années 1170, évoque cette question-là et écrit la chose suivante. « Nos livres, dit-il, nous ont appris que la Grèce fut en chevalerie et en savoir renommée la première, puis la chevalerie vint à Rome avec la totalité de la science. Maintenant, elles sont venues en France. Dieu fasse qu'on les y retienne assez pour que le lieu leur sourie, si bien que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est arrêtée. » On ne peut pas mieux exprimer qu'il serait comme des continuateurs.
Alors, c'est une idée qu'on désigne de façon pédante comme l'idée de la translatio imperii et studii, le transfert du pouvoir et des études de la vie intellectuelle. Donc, d'Athènes à Rome, et ensuite de Rome en France, pour Chrétien de Troyes, qui est champenois, et en Angleterre, pour les écrivains anglo-normands qui reprennent la légende selon laquelle l'arrière-petit-fils d'aîné serait venu s'établir en Angleterre. Mais on a ce sentiment d'une translation et à quoi s'ajoute naturellement une autre translation qui est celle de Terre Sainte en Europe, hein, puisque la fidélité au passé de l'Antiquité classique est rompue, sans être vraiment rompue, par le fait que le Moyen-Âge est la première époque chrétienne et que son autre enracinement, son vrai enracinement, selon lui, puisque la religion antique est mensongère, est dans le passé biblique et néo-testamentaire.
Donc, il y a certes Athènes et Rome, mais aussi Jérusalem.
Voilà.
Alors précisément, même s'il y a un sentiment de continuité, on se rend compte que naît à cet instant une civilisation qui a quand même des traits particuliers et qui mérite d'être distinguée à la fois de ce qui l'a précédé et de ce qui l'a suivi. Votre livre s'intitule « Bienvenue au Moyen-Âge ». Ça donc laisse entendre qu'il s'agit bien d'une contrée déterminée.
Oui,
Pourquoi se caractérise-t-elle ?
Oui, il y a, c'est une contrée déterminée. Et au regard de l'Antiquité, c'est facile à voir, justement par le fait que le Moyen-Âge admire, a une admiration sans borne pour la littérature antique, qu'il la connaît très bien, moi la littérature latine, qu'il ne cesse de l'imiter, et que le résultat est totalement différent de ce que produisait l'Antiquité. Donc on voit bien qu'il y a un changement.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui est fascinant en lisant votre livre, c'est qu'on n'est pas du tout dans une sorte d'académisme qui viendra ensuite, mais on est dans une sorte de fidélité ou de loyauté, mais extrêmement inventive.
Oui, la formule est excellente. C'est une fidélité inventive qui cherche parfois à l'être, qui ne cherche pas toujours. Souvent, elle l'est sans le faire exprès. Elle l'est parce que la langue que l'on parle a changé et que du coup, cette langue née des rues, sur les ruines du latin parlé se reflète dans l'autre sens, dans le type de latin qu'on emploie. Elle l'est parce que aux légendes et à l'imagination héritées de l'Antiquité et que à la fois on adopte et qu'on refuse au nom de la vérité chrétienne, s'en mêlent d'autres qui ont d'autres origines, légendes celtiques, légendes germaniques, et puis il y a la nouveauté née simplement à l'emploi de langues nouvelles qui ont leur génie propre, qui entraînent des rythmes propres, une poétique propre, une façon de raconter qui leur est propre, et tout cela nous entraîne indépendamment même des conditions proprement historiques dans un univers littéraire qui est tout à fait original et qui effectivement disparaît ensuite parce que le retour, le grand retour à l'Antiquité de la Renaissance humaniste a toutes sortes de conséquences sur l'imagination et la vie littéraire, conséquences de revenir à un latin classique. Ce qui est très bien, c'est du plus beau latin si on veut, mais en même temps, ça tue le latin vivant qu'était le latin médiéval. Retour au modèle littéraire de l'Antiquité, la tragédie, l'épopée qu'on essaye, avec succès dans un cas, moins de succès dans l'autre, de faire renaître, et en même temps, on épuise un filon poétique qui s'était développé tout au long du Moyen-Âge et qui nous séduit aujourd'hui.
Si vous me permettez un raccourci, avec le recul, en lisant votre livre, on a l'impression qu'au moment de la Renaissance, on recherche la conformité, alors qu'auparavant, on a quelque chose qui ressemble à une sorte de créativité, un petit peu débridée. C'est un raccourci.
C'est un raccourci, parce que la Renaissance est inventive aussi. La Renaissance est l'époque de la Réforme, par exemple. Donc d'une période de grande audace dans l'ordre religieux.
Intellectuel, oui.
On pourrait, et dans l'ordre intellectuel, le Collège de France a été créé en 1530 et sur un programme de liberté et d'inventivité intellectuelle auquel est toujours resté fidèle. Et parce que cette inventivité, à l'époque, ne se trouvait pas tellement du côté de l'université héritée du Moyen-Âge. Donc, tout dit comme cela, c'est peut-être un petit peu rapide, mais enfin, j'ai l'air de plaider contre mon sein. Mais ce qui est vrai, c'est que les modèles intellectuels, littéraires, dont nous avons vécu et sur lesquels nous avons été formés, peut-être plus maintenant, mais encore à ma génération, mais il est vrai que c'est une vieille génération. Ces modèles conduisaient à considérer la littérature classique ou la littérature du XIXe siècle comme allant de soi. Et la littérature médiévale était une découverte totale. Maintenant, c'est moins vrai pour toutes sortes de raisons. Mais nous sentions, on sent encore très fortement cette sorte de fraîcheur d'une littérature qui apparaît dans une langue toute nouvelle. Il y a des modèles, mais dont on est séparé par une solution de continuité, celle de la langue, celle d'une religion nouvelle, et avec les outils dont on dispose, tout est à faire. Et on s'invente même un passé. On voit cette littérature qui vient à peine d'apparaître à la fois revendiquer une forme de nouveauté, mais la nouveauté, c'est plutôt la fraîcheur, et en même temps prétendre sans cesse qu'elle reprend une tradition très ancienne, alors que ce n'est pas toujours vrai. Elle s'invente son propre passé, elle se crée de faux archaïsmes, alors qu'elle est encore toute jeune, comme une petite fille qui essaye de se maquiller, alors qu'elle n'est pas encore sage derrière les oreilles.
Vous pouvez nous donner quelques exemples de...
Eh bien, par exemple, vous tirez de ce petit livre, le jongleur qui chante une chanson de geste et qui ameute le public autour de lui en disant « Je vais vous chanter une vieille chanson. Les autres l'ont déformée, ils ne la connaissent pas. Mais moi, j'ai retrouvé la source, je vous en dis la vérité. » Pas vrai, il n'en sait pas plus que les autres. Ou les chansons de toile, qui sont proches des chansons de geste, parce que ce sont des chansons lyriques, mais narratives. Et en même temps, elles sont écrites dans la métrique des chansons de geste, le décasyllabe à césure asymétrique, 4-6 ou 6-4, donc ce décasyllabe un peu claudiquant, et ces strophes qui ont la même rime ou sont la même assonance, donc une rime imparfaite, quelque chose d'un peu rude pour l'oreille, une mélodie souvent très simple, et ces chansons montrent des héroïnes occupées à leurs travaux d'aiguille et qui attendent un séducteur qui vient ou qui ne vient pas. Et ces chansons donnent une impression de très grand archaïsme, de très grande simplicité. Mais il se trouve que nous les connaissons en particulier parce qu'elles sont citées dans le roman d'un romancier du début du XIIIe siècle, dont le sobriquet est Jean Renard, et on le comprend, très subtil, très retors, et qui crée, en citant ses chansons, un effet d'abîme. Il met en scène deux dames, une la mère et la fille, perdues dans des provinciales, perdues dans leur château au fond de la Franche-Comté, n'est-ce pas ? Et elles reçoivent un beau monsieur, alors elles sont toutes émues, et il leur demande de chanter, et alors la mère s'excuse et dit « Oh, c'était autrefois que les dames et les reines travaillaient à leur broderie en chantant des chansons d'histoire. » Et elle chante une de ces chansons où on voit une dame à sa broderie, etc. Donc, tout est fait pour donner cette impression d'archaïsme. Et quand on regarde de près, on se dit ça, c'est pas vraiment archaïque, c'est un faux archaïsme. Là, il en fait trop. Même à une époque très ancienne, la phonétique en était pas là, etc. Mais après tout, elles sont peut-être vieilles quand même, et c'est au moment où elles ont noté que tout ça était... C'est bien difficile à dire. Mais on a l'impression qu'on recherche cet archaïsme. Ou un texte très connu, le prologue des Lais de Marie de France. Les Lais étaient des pièces musicales celtiques. On ne sait même pas s'il y avait des paroles dessus, mais associées à des légendes. Et Marie de France dit « Oh, j'avais envie de traduire un ouvrage du latin, mais ça s'est tellement fait, bon, non, j'y renonce. Mais je vais raconter les Lais bretons, parce que sinon, on les oubliera. » Et elle écrit...
Mais c'est une ethnologie avant l'heure.
Oui, c'est une ethnologie. C'est une... comme si elle était... Oui, comme si c'était une collecte de contes, n'est-ce pas ? Comme tous les auteurs de collectes de contes, tous les ethnologues, tous les folkloristes vous disent « Heureusement que je suis arrivé, c'était en train de se perdre. » Ça fait des siècles qu'on a l'impression que c'est toujours en train de se perdre. Et là, au début de la deuxième moitié du XIIe siècle, elle a cette impression, Marie de France, que si elle ne raconte pas, ça se perdra. Et en même temps, ce qu'elle raconte, c'est comme le développement narratif d'une chanson. C'est, encore une fois, c'est laid, c'était des pièces musicales. Elle écrit des nouvelles. C'est comme si un écrivain aujourd'hui écrivait une nouvelle qui raconte comment un soldat est parti à la guerre et il est fait prisonnier par les Hollandais. Et pendant ce temps, sa jeune femme est restée dans le jardin de son père où les lilas sont fleuris, n'est-ce pas ? Et lui, les prisonniers, il se dit auprès de ma blonde qu'il fait bon dormir, etc. Écrivait une histoire à partir d'auprès de ma blonde. C'est le même principe.
Avec un point extraordinaire, c'est que le génie propre des auteurs se révèle lui aussi. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on est vraiment dans une période où l'individu, le génie propre, est écrasé dans une chape idéologique, religieuse ou autre. Pas du tout.
Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, alors, du point de vue idéologique, l'agitation... l'agitation et le travail intellectuel, la réflexion, l'audace intellectuelle sont considérables parce qu'on dit « Ah ah, les pauvres hérétiques sont réprimés ». C'est vrai, c'est très vilain. Mais s'ils sont réprimés, c'est qu'ils osent le dire. C'est qu'on réfléchit sans arrêt, on se pose des questions, on s'étripe quelquefois au sens propre, mais pas toujours au sens propre. Maintenant dans l'Église catholique, l'Immaculée Conception est un dogme. Hein. Mais saint Thomas d'Aquin, qui est un grand saint et le type même de l'orthodoxie catholique, était farouchement contre l'Immaculée Conception. Enfin, il n'était pas contre l'Immaculée Conception, il était contre... il ne pensait pas que...
Les choses n'étaient pas encore fixées.
Et voilà, les choses n'étaient pas fixées et... Généralement, enfin, de temps en temps, ça tournait mal, mais généralement, on pouvait le dire. Et dans le domaine, jusqu'au moment où on était condamné, on faisait pénitence. Et mais dans le domaine littéraire, c'est cette littérature qui, au premier abord, a l'air si simple. Ces romans en couplets d'octosyllabes, comme ça, ces vers courts qui s'égrènent, ces chansons. Quand on regarde de près, on voit que c'est écrit avec une habileté, généralement, il y a très peu de chevilles, voilà, avec une subtilité, avec une façon de s'attarder ou de passer vite, qui ne sont pas exactement les nôtres, mais qui sont toujours très riches d'intentions. Et dans mon petit livre, j'ai toujours donné le texte original avec la traduction, du coup, pour le texte original en rouge, la traduction en noir, pour que ce soit plus lisible. Bon. Et j'ai regretté, lorsque j'ai présenté ces chroniques sur France Inter l'été dernier, qu'on ait dû couper... le texte original. Chaque fois, je donnais le texte original et la traduction. C'est de ma faute, j'étais trop long. Mais chaque chronique était de 3 minutes et demie. Et alors, je me suis aperçu qu'on dit pas mal de choses en 3 minutes et demie. Mais tout de même,
oui, il faut doubler le propos, ça devient très.
Et ça, oui, ça double pour les citations. En même temps, je voulais beaucoup de citations. Et en même temps, si on parle d'un auteur moderne ou contemporain, une fois qu'on l'a présenté, une fois où on l'a présenté rapidement, où il est souvent très connu, on peut se plonger dans le texte. Mais là, je prenais des textes très, très différents. Chaque fois, il fallait expliquer un peu de quoi il s'agit. Et en même temps, je ne voulais pas faire de l'histoire littéraire. Je voulais aller droit à la moelle de ces textes. Et donc, j'en suis tiré comme j'ai pu. Mais enfin, voilà. Et une des conséquences, c'est que... Faut dire, je ne peux pas dire que je prononce très bien l'ancien français ou l'ancien occitan, mais enfin, du coup, on ne l'a pas entendu.
Raison de plus pour se référer à la version, version éditée.
Je ne vous le fais pas dire.
À la fin de nombreux chapitres, on trouve des réflexions comme celle-ci. Celle que je vais vous lire est issue d'un chapitre qui s'appelle « Chansons de femmes ». Vous nous direz peut-être ensuite ce dont il s'agit. Ça se termine par « C'était pendant tout le Moyen-Âge, et déjà avant lui, et encore après lui ». C'est-à-dire qu'on a le sentiment que cette littérature... ce mode de pensée, d'expression, de communication, exprime des choses qui ne sont pas seulement du Moyen-Âge, c'est-à-dire que les moyens sont ceux du Moyen-Âge, mais qu'en fait, on touche à une forme d'essence même de la nature humaine, avec un charme qui est propre à cette littérature-là, mais que c'est de tout temps.
Oui, si c'était seulement du Moyen-Âge, ça ne vaudrait pas la peine de lire cette littérature, ou on pourrait la lire comme document pour comprendre une époque. Mais ce que je propose, c'est de la lire pour le plaisir et pour l'enrichissement qu'elle nous apporte à nous. Si on la lit sans aucune préparation, on y trouve beaucoup de plaisir et beaucoup d'enrichissement, mais en même temps, on se trompe sur elle. Donc, il faut toujours un mouvement de va-et-vient. Nous sommes séduits par elle, heureusement, sinon ce n'est pas la peine de continuer. Et puis, nous apercevons que nous sommes séduits pour de mauvaises raisons, n'a pas été écrite pour nous, nous la comprenons mal, etc. Donc nous essayons de la comprendre. Et une fois que nous l'avons comprise mieux, nous apercevons que ça n'a pas gâché notre plaisir, mais qu'au contraire, ça l'a augmenté. Dans le cas des chansons de femmes, je le disais pour une raison précise, parce que rapporter l'amour aux femmes, considérer que c'est un sentiment qui est spontanément placé dans la bouche des femmes plutôt que dans celle des hommes, eh bien, soit par une projection des hommes qui prennent leur désir pour des réalités, soit que, enfin bon, quelle que soit la raison. C'est quelque chose qui est très ancien, qui n'est pas propre même à l'Europe, qu'on trouve tout autour du bassin méditerranéen et très au-delà. Et cette tradition de la chanson de femme, on voit qu'elle nourrit le plus ancien lyrisme en langue romane, dans nos langues, ou en latin tardif. Et on en a des témoignages indirects, ces chansons n'ont pas été conservées, ces pauvres femmes ne savaient pas écrire, et puis personne ne s'occupait d'écrire ce qu'elles disaient. Mais on voit les condamnations des papes, des conciles, les carmina luxuriosa et diabolica des femmes sur les parvis et dans les, des églises et jusque dans les églises, etc. Et puis, nous en saisissons des traces à travers, par exemple, la poésie arabe hébraïque d'Andalousie qui cite des extraits de chansons de la population indigène occupée, des mots arabes, donc du vieil espagnol. Et ce sont des extraits de chansons de femmes. Et les chansons de toile dont je parlais il y a un instant, ce sont des chansons de femmes. Et si on regarde les chansons populaires françaises ou européennes, ce sont très souvent des chansons de femmes. Auprès de ma blonde est une chanson de soldat. C'est une chanson martelée, c'est une chanson de marche. Le refrain est placé dans la bouche du soldat. Mais les couplets sont pas placés dans la bouche de la jeune femme. Le Moyen-Âge a beaucoup pratiqué un genre auquel j'avais consacré ma thèse de troisième cycle il y a bien longtemps, et qui s'appelle la pastourelle. Un chevalier essaye de séduire une bergère, il y arrive, il n'y arrive pas. Bon. Et la pastourelle a survécu dans la chanson populaire, mais souvent de façon inversée. Du point de vue de la jeune fille, mon père avait 500 moutons et j'en suis la bergère, relons-là, etc. En passant par la Lorraine. Et donc cette chanson, c'est vraiment, semble-t-il, un substrat populaire très ancien qu'on voit traverser le Moyen-Âge, qui sert au Moyen-Âge de contrepoint à une poésie d'amour plus savante qui est généralement masculine, dont on voit même au Moyen-Âge que c'est une poésie placée dans la bouche des femmes, mais souvent composée par des hommes, et comme si il y avait une sorte de nécessité, comme si c'était comme ça, si j'ose dire. Et c'est assez mal dit. Et,
la répartition des rôles, vous voulez dire.
Oui. Une répartition des rôles qu'on trouve même dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, bon, la poésie érotique ou élégiaque existe, mais c'est un genre mineur, finalement. Et c'est une des grandes originalités du Moyen-Âge d'avoir fait de l'amour la grande affaire de la poésie. Ça, c'est la nouveauté médiévale. Mais les grands genres dans l'Antiquité, c'est l'épopée et la tragédie, comme dirait Aristote. Mais quand il y a de l'amour dans l'épopée et dans la tragédie, ce sont les femmes qui sont amoureuses. C'est Didon qui est amoureuse d'Énée, pas Énée qui s'en va vers son destin et qui la laisse brûler. C'est Médée qui est amoureuse de Jason. Jason la trompe. Médée a tué son petit frère et l'a coupé en morceaux par amour pour Jason. Elle tue ses enfants par jalousie quand Jason la délaisse. C'est de l'amour, ça, quand même. D'une certaine façon. Donc, on rapporte toujours la passion amoureuse d'abord aux femmes, et une des nouveautés médiévales, c'est cette... il y a sa faute. Hein, c'est au Moyen-Âge, c'est de rapporter à un moment donné la passion amoureuse d'abord aux hommes. Les hommes attendent la miséricorde et les faveurs d'une dame qui
peut refuser ses faveurs.
Qui peut les refuser. Et dans ces conventions poétiques, on n'imagine pas qu'elle puisse en avoir envie aussi. Alors qu'à côté, les mêmes écrivent des fabliaux où on imagine très très bien qu'elle en ait envie. Non, il y a cette sorte de répartition des rôles, et la tradition de la chanson de femme, qui n'est pas une tradition grivoise et rigolarde, si j'ose dire, comme celle des fabliaux, qui est, excusez-moi d'avoir employé un mot si atroce, hein, mais qui est une tradition d'un amour grave et à la fois pudique et sensuelle et très mélancolique. Bien, c'est une tradition qui va de l'Antiquité la plus lointaine à nos jours, à travers le Moyen-Âge, qu'il a bien perçu comme quelque chose de, qui subsiste, une tradition populaire, dirions-nous.
Ce qui est assez frappant, puisqu'il s'agit de l'amour, vous me direz si je me trompe, mais je l'ai ressenti comme cela, c'est que l'amour dont il est question est souvent entier. C'est-à-dire qu'il est à la fois spirituel, sensuel, il recouvre l'ensemble de la palette. Il est assez peu tronçonné.
Oui, comme...
Voilà, c'est pas très gentil, oui, joliment dit, dire, mais...
Il est assez
mais,
peu... Oui, oui,
mais il est entier.
Il est entier, oui, oui. Et alors, vous avez entièrement raison, et de plusieurs façons. D'abord, l'amour, le fameux amour courtois, la fine amour, l'amour fin, c'est-à-dire comme l'or est fin, épuré au feu, hein, qui est l'invention des troubadours de Languedoc du XIIe siècle, qui s'est répandu partout. C'est un amour qui est respectueux de la dame, qui n'est pas un amour chaste, qui est un amour brûlant, qui est un amour sensuel, mais qui entretient à la fois l'exaltation et l'angoisse du désir, et qui peint ce désir, qui peut le peindre de façon très crue. Mais en même temps, vous avez raison de parler d'une totalité de l'amour, parce que cette poésie, enfin, j'allais dire à un moment donné, ce n'est même pas vrai, on trouve cela dès les premiers troubadours. C'est une poésie de la passion amoureuse, c'est une poésie de l'éros. Et en même temps, elle s'interroge sur la légitimité de l'éros dans un monde chrétien, mais ce monde chrétien ne lui fait pas dévaluer totalement l'éros, mais s'interroger sur la façon de lui donner sa juste place sans le dévaloriser trop, sans non plus l'exalter trop. Et comment le situer au regard des autres formes de l'amour. L'amour divin, l'amour pour les parents et pour les enfants, l'amour du prochain, la charité, etc. Et on le voit dès certains des premiers troubadours, chez Marc Abru, par exemple, qu'il exprime d'ailleurs d'une façon, lui, brutale, quelquefois obscène, mais une obscénité de moraliste, indigné par l'immoralité. Et on le trouve au XIIIe siècle, au moment où une poésie récitée, non plus chantée, plus intellectuelle, en somme, plus philosophique presque, s'interroge sur cette tonalité de l'amour. Et on le voit dans l'Europe entière. On voit, c'est ce que fait d'une certaine façon le roman de la Rose de Guillaume Delorys, enfin, surtout la partie Jean de Main, le roman de la Rose de Jean de Main, c'est ce que fait à peu près à la même époque en Languedoc un poète beaucoup plus obscur de Béziers, Ma frère Mango, qui écrit un bréviaire d'amour. Un bréviaire, ça veut dire un abrégé, mais là, il y a quand même 35 000 vers, c'est pas tout à fait fini, et avec une grande miniature en tête de tous les manuscrits où on voit dame amour, puisqu'amour est féminin, et puis toutes les formes de l'amour autour, et ça se termine par le périlleux traité de l'amour des dames, mais nourri des citations des troubadours, et alors qu'on a vu toutes les formes de l'amour, puis l'amour de Dieu au début. Et puis, c'est ce qu'on trouve chez Raymond Lull, à la fois poète et mystique catalan, c'est ce qu'on trouve chez Dante. Si on regarde l'œuvre de Dante prise dans sa totalité, eh bien, on va de la Vita Nuova à la Divine Comédie, eh bien, on voit cette découverte d'un amour humain, cet effort pour à la fois le purifier et le comprendre, le détour par la philosophie dans le banquet, et ensuite, guidé par cet amour humain, autant que par Virgile, puis-je dire, on traverse les monts et on s'élève jusqu'au paradis où Béatrice laisse la place de façon ultime à Saint Bernard, mais a conduit quand même jusqu'au paradis.
Dans l'un de vos chapitres, vous abordez l'œuvre de Thomas d'Angleterre, si je ne me trompe pas, et cela se conclut ainsi, un récit à la fois amoureux et picaresque. Il termine de la façon suivante, en saluant tous les amants, ceux qui sont malheureux et ceux qui rêvent de l'amour, ceux qui sont rongés d'envie, ceux qui sont rongés de désir, ceux qui connaissent le plaisir, ceux qui se livrent aux excès de la chair, tous ceux qui liront ces vers.
Voilà, alors...
C'est moins léger qu'il n'y paraît, tout ça. Hein.
Ah oui, alors, la ma traduction, là, est très développée, et donc elle est lourde. Mais elle est lourde parce que le texte est assez énigmatique, très ramassé, et on ne voit pas très bien, à première vue, quelle catégorie il désigne, en particulier les pervers dont il parle à la fin. Qui sont ces pervers? Eh bien, probablement ceux qui sont dominés, qui n'arrivent pas à dominer l'appétit de la chair et qui sont enfermés dans cet appétit. Et donc, c'est la fin. Beaucoup de nos auditeurs, je pense, connaissent, mais dans une traduction plus ramassée, parce que c'est la fin, comme vous l'avez dit, du roman de Tristan de Thomas. Et dans son adaptation de la légende de Tristan d'après l'ensemble des sources médiévales, Joseph Bédier terminait comme Thomas, sur ses vers qu'il traduit littéralement. Et le Tristan de Bédier était un des best-sellers du XXe siècle, beaucoup l'ont lu. Mais Thomas sait de quoi il parle, parce que Thomas, dont on dit que sa version est une version courtoise, elle n'est pas courtoise du tout, bien peu courtoise, sa version, c'est un poète qui est obsédé, justement, obsédé par l'obsession sexuelle, d'une certaine façon, et en particulier par l'obsession sexuelle liée à la jalousie, ce qui va très bien, évidemment, dans le cas de Tristan, et la jalousie de la jouissance de l'autre. Je le dis probablement, je ne me rappelle plus, je cite le grand monologue de Tristan au moment où il s'apprête à épouser Iseult au Blanchemain. Il a rendu Iseult la blonde au roi Marc. Il est au service du seigneur de Carhaix, donc l'ami du fils du seigneur Carhaix, Caerdin, qui a une sœur, Iseult au Blanchemain. Et il veut l'épouser simplement parce qu'elle s'appelle Iseult. Et il hésite, évidemment, parce que c'est une infidélité à l'égard d'Iseult la blonde, puis il n'aime pas Iseult au Blanchemain. Et son raisonnement est, alors il dit, ça dure très longtemps, oui, non, enfin, c'est très habilement fait. Et il dit, il y a une asymétrie entre, enfin, je résume très grossièrement, il y a une asymétrie entre nous, parce que j'ai rendu Iseult la blonde au roi Marc, et Iseult la blonde... voilà, a retrouvé son mari, et elle ne peut pas s'empêcher de jouir avec son mari. Tandis que moi, je ne peux pas jouir. Donc je vais épouser Iseult au Blanchemain pour rétablir l'égalité entre nous et pour savoir l'effet que ça fait de jouer avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Et il ne le saura pas parce que au soir des noces, en se déshabillant, il fait tomber l'anneau que lui a donné Iseult la blonde. Et il ne consomme pas le mariage, tout le monde connaît l'histoire. Un jour, tous les trois Caerdin, au Blanchemain et lui, chassent. Ils galopent dans la forêt, ils traversent au galop une flaque d'eau, et là, l'eau mouille Iseult au Blanchemain jusqu'en haut des cuisses, et elle rit, elle dit « cette eau est plus hardie que vous ». Et Caerdin se pose des questions, et à ce moment-là, bon, Caerdin ira trouver de la part de Tristan Iseult la blonde, enfin tout le monde connaît l'histoire.
Mais écoutez, moi je ne la connaissais pas dans toutes ses versions, je connaissais justement celle qui avait été reprise dans l'opéra de Wagner, et on se rend compte qu'elle est infiniment moins subtile que la version médiévale.
Oui, alors...
C'est-à-dire
oui.
Qu'au final, j'espère ne pas mettre à dos tous les 19e-istes, mais
tous les Wagneriens, voilà, c'est très dangereux.
Oui, ils sont nombreux, finalement.
C'est très dangereux.
Mais de fait, on se rend compte, ça c'est peut-être une constante, c'est que la littérature médiévale semble, et c'est notamment le cas dans le Graal, on ne tranche pas. On laisse une certaine liberté d'interprétation, oui, beaucoup plus importante que dans le roman plus tardif, où on emmène le lecteur vers une conclusion unique.
Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais dû dire plus. Mais l'ambiguïté est un trait, non pas constant, mais fréquent, de cette littérature. Dès qu'il ne s'agit plus de littérature, je dis fréquent et non pas constant, parce qu'il y a le cas de la littérature édifiante, par exemple. Et même dans ce cas-là, ce n'est pas toujours si simple. Mais partout ailleurs, dans la littérature amoureuse, et même dans des cas différents. Dans la chanson de Roland, pour nous, Ganelon est un traître. Dans la chanson de Roland, on n'arrive pas à prouver que Ganelon a trahi et qu'il n'a pas simplement satisfait à une vendetta personnelle qui n'engageait pas l'empereur. Dans les premiers romans de Tristan, le roi Marc est une figure malheureuse et sympathique. Mais il faut dire qu'ensuite, dans le remaniement du Tristan en prose, au milieu et à la fin du XIIIe siècle, le roi Marc devient un personnage tout à fait noir. Quand un personnage est ambigu, il est ambigu dans une version particulièrement habile ou géniale. Mais les continuateurs ont du mal à préserver l'ambiguïté et le font basculer d'un côté ou de l'autre, généralement vers le mal, parce qu'on n'aime pas, l'ambiguïté, ça gêne. Donc Ganelon devient atroce et tous les traits des chansons de gestes ultérieurs sont du lignage de Ganelon. Le roi Marc devient épouvantable. Le sénéchal du roi Arthur, qui est son frère de lait, qui, dans les romans de Chrétien de Troyes et dans les premiers romans, est un personnage vantard, moqueur, ridicule, donc il y a toutes sortes de défauts, mais qui, au-delà de ses défauts, est un chevalier brave et loyal. Dans un roman plus tardif, au Livre du Graal ou Per Lesvos, tue au fond de la forêt le fils du roi Arthur. Dans ce roman, il a un fils, etc. Et il devient noir. Donc, vous avez raison, on a du mal à conserver toujours l'ambiguïté. Mais, très souvent, les œuvres premières et celles qui sont pour notre goût les plus belles sont des œuvres ambiguës, inépuisables.
Celle qui touche finalement la nature humaine, peut-être, parce que nous sommes tous un peu ambigus.
Bah, beaucoup, même. J'espère, parce que si nous ne sommes pas ambigus, j'ai bien peur que nous fassions comme le roi Marc, nous basculerons du mauvais côté. Heureusement que nous sommes ambigus.
D'ailleurs, même sur des sujets qu'on pense très clairs à cette époque, je pense à Lancelot et Guenièvre.
Oui.
C'est un amour sublime. Il est, si j'ai bien compris, décrit comme le plus pur, le plus élevé, le plus absolu. Et en même temps, c'est celui qui cause la fin de l'univers de la Table Ronde, parce que dès lors qu'il est rendu public. Si ce n'est pas de l'ambiguïté.
Oui. Alors, c'est le plus élevé, le plus absolu, le plus pur, non. Mais il y a... Alors,
oui, parce que c'est un adultère, je précise, pour ceux qui n'ont pas suivi.
C'est un adultère, puisque Guenièvre est l'épouse du roi Arthur. Mais cette ambiguïté pèse, semble-t-il, dès le début. Le premier à raconter l'histoire, c'est Chrétien de Troyes, dans Le Chevalier de la Charrette. Il précise bien que c'est la comtesse Marie de Champagne qui lui a imposé le sujet. C'est pas lui. Et il ne termine pas le roman. Il laisse un de ses élèves le terminer. Et tout du long, Chrétien de Troyes, qui au fond est un moraliste, est peut-être, mais c'est là l'ambiguïté, la richesse, paraît un peu gêné par le sujet, mais ne l'est pas explicitement. Mais quelquefois, il en fait un peu trop. On se demande si, par exemple, ces extases répétées de Lancelot, il voit le cortège de la reine passer au pied du château et hop, il bascule par la fenêtre, il faut le retenir, sinon il serait dans une prairie au bord d'une fontaine, il voit un peigne laissé par la reine, il y a des cheveux de la reine qui sont accrochés au peigne et alors il tombe dans une extase, on pourrait le tuer sur place, etc. Bon. C'est presque un petit peu trop. Et Chrétien de Troyes avait probablement des réserves. Dans le grand cycle en prose du Lancelot Graal, donc 50 ans plus tard, ou pas tout à fait, cela commence avec ses amours. Lancelot, vous avez raison, devient le meilleur chevalier du monde parce que son amour pour Guenièvre décuple ses qualités naturelles. En même temps, comme il est tombé amoureux de Guenièvre dès le premier regard, il s'est arrangé pour que ce soit Guenièvre qui lui remette son épée de chevalier et pas Arthur, pour que l'adultère soit moins grave. En somme, c'est pas vraiment celui qui l'a fait chevalier. Enfin, il s'en tire comme il peut. Mais effectivement, cet amour est exalté. Et c'est au moment où le cycle prend une coloration religieuse très marquée dans la quête du Saint Graal, mais qui n'est pas du même auteur, à supposer que le début soit entièrement du même auteur, on en discute, dans la quête du Saint Graal, à ce moment-là, Lancelot échoue dans la quête à cause de cet amour coupable pour Guenièvre. Mais le vainqueur, le grand vainqueur, il y a trois vainqueurs, mais le grand vainqueur, la médaille d'or de la quête du Graal, ce n'est pas Perceval, comme dans Chrétien de Troyes, c'est Galahad, le fils de Lancelot et de la fille du roi pêcheur. Ah oui, mais comment a-t-il pu avoir un enfant de la fille du roi pêcheur alors que c'est Guenièvre qui l'aime ? Eh bien, parce que, comme pour qu'il fallait que ça se passe comme ça, parce que l'histoire du Graal est une histoire de famille, par magie, la fille du roi pêcheur a pris l'apparence de Guenièvre. Donc il croyait coucher avec Guenièvre alors qu'il couchait avec elle. C'est ainsi que Galahad est né. Mais quand Guenièvre l'a appris, si on ne l'a pas satisfaite, ça a été très mal. Elle l'a chassé, Lancelot, il est devenu fou. Enfin, c'est ces épisodes compliqués de ce roman. Mais vous voyez, la vraie ambiguïté, on en revient toujours à ce que vous disiez qui est très juste, c'est la réticence qu'on devine seulement de Chrétien de Troyes. Et dès que les choses sont développées, à ce moment-là, on s'en mêle un petit peu. Chrétien de Troyes lui-même, qui est, comme ils le sont tous, fasciné par l'histoire de Tristan et Iseult, est gêné par l'adultère, par le filtre, par le fait que Tristan prend la femme de son oncle, ce genre de choses. Et plusieurs poètes, dont Chrétien de Troyes, dans des chansons d'amour, disent « Moi, j'aime mieux que Tristan, parce que Tristan, eh bien, à cause du fil, était obligé, il ne pouvait pas faire autrement, il était drogué. Tandis que moi, je vous aime parce que je vous ai choisi. » C'est pour ça, c'est pourquoi Denis de Rougemont avait tort de voir dans l'histoire de Tristan et Iseult le modèle de l'amour courtois. C'est un anti-amour courtois, Tristan et Iseult.
Oui, ce qui est très beau dans la version initiale, c'est que l'amour se poursuit une fois que le filtre s'épuise, ce qui reprend une forme de sens, une continuité dans deux formes d'amour, la fascination d'abord, l'abandon, la contrainte peut-être, alors que dans la version plus tardive, on fait de ce filtre une sorte d'allégorie de l'amour parfait. C'est un petit peu lourd par rapport à la version initiale, non ?
Oui, vous êtes gentil, parce que ça, c'est ma théorie. Alors, la version où ça dure toujours n'est pas forcément plus tardive. Mais enfin, il y a deux façons de raconter l'histoire. Une version dite commune, à tort d'ailleurs, dite commune, à la forme la plus ancienne, enfin la version la plus ancienne que nous connaissons, c'est ce que nous avons du roman de Béroul. Et puis une version dite courtoise, version la plus ancienne que nous avons, c'est ce que nous avons du roman de Thomas, mais le roman de Béroul est repris par l'allemand Eilhard Doberck, Thomas par l'allemand Gottfried de Strasbourg, dont s'inspire Wagner, et Thomas est traduit intégralement en norrois, en vieil islandais, dès les années 1220, c'est comme ça qu'on a la totalité. Et donc la légende de Tristan et Iseult a joué le rôle qu'on sait dans l'imaginaire amoureux de l'Occident, et c'est toujours la version courtoise qui a été préférée, avec le filtre qui agit pour la vie entière. C'est ce que choisit Wagner, c'est ce que choisit Bédier. Et c'est moi, je dois dire, sans nulle vanité, que c'est moi qui le dis. Hein, qui fait remarquer, je le rappelle là, mais je l'avais dit ailleurs, que, en fait, la supériorité est du côté de la version qui dit que le filtre agit 3 ans ou 5 ans. Alors ça a l'air scandaleux, n'est pas une passion absolue qui dure 3 ans ou 5 ans. Mais justement, comme on le dit, elle ne s'arrête pas.
Ça correspond un petit peu à la vie aussi. Hein
non, oui. Oui, mais justement, si à ce moment-là, il se quittait, mais ce n'était pas le cas. Au moment où le filtre cesse d'agir, dans le roman de Béroul, ils ne sont pas ensemble. Iseult est dans la loge de feuillage, ils sont réfugiés dans la forêt de Montroy, il fuit le roi Marc. Iseult est dans la loge de feuillage et Tristan chasse. Et à ce moment-là, chacun se dit, enfin bon, je schématise encore, mais chacun se dit, mais quelle vie je fais mener à l'autre. il pourrait être le, il est le neveu, il pourrait être le successeur de son oncle, etc. Et je le fais vivre comme un proscrit dans la forêt. Elle est la reine, elle pourrait être à côté de mon oncle, etc. Et je lui fais courir, endurer ses misères et courir ses dangers. Et à ce moment-là, ils ont le courage de se séparer et Tristan rend Iseult au roi Marc. Or, quand ils étaient sous l'emprise du philtre, ils avaient rencontré l'ermite Ogrin dans la forêt. Ogrin leur avait dit, naturellement, c'est son rôle, c'est un ermite. Hein, on lui dit, il faut rendre la reine au roi, etc. Et il s'offrait comme entremetteur. Et Iseult lui dit, je cite, c'est pas ça, « Sire, vous n'entendez pas la raison. Il ne m'aime pas, ne je lui, fort par un herbé dont je buis. » Et il en but. Ce fut péché. « Seigneur, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il ne m'aime pas et je ne l'aime pas, sinon par un herbé, un vin herbé, un vin drogué dont j'ai bu. Et il en a bu aussi, ça a été notre malheur. » Et voyez cette chose énorme, d'une façon de Iseult disant de Tristan, je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Mais elle a bien compris, quand ils sont sous l'emprise du philtre, ils peuvent dire ça. Ils ne peuvent pas se séparer sans mourir. Ils courent tous les dangers pour rester ensemble, parce que se séparer, c'est mourir. Mais je ne l'aime pas, il ne m'aime pas. Et une fois que le philtre n'agit plus, à ce moment-là, ils s'aiment et ils peuvent se séparer. Et moi, je trouve que cette version dite commune est magnifique à cause de ça.
Et elle est probablement plus riche d'interprétation, notamment pour l'interprétation de nos vies à tous, et voire de la société d'aujourd'hui. Et c'est, voilà, pour conclure, c'est ça qui est très étonnant avec le Moyen-Âge, c'est qu'au départ, en tout cas, bon, voilà, j'étends ma posture personnelle à ce que j'ai ressenti de votre livre. Au départ, le Moyen-Âge fascine parce qu'il est exotique. À la fin de la lecture de vos chroniques, il fascine parce qu'il est extrêmement présent et proche, et beaucoup plus proche qu'on l'imaginait au départ.
C'est-à-dire c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
C'est gentil. mais c'est parfaitement vrai. Et c'est pour ça que j'invite les auditeurs à se pencher sur le livre, parce qu'au-delà de la découverte d'une contrée, en fait, c'est une contrée intérieure dans laquelle on va cheminer, et une nouvelle grille de lecture de choses qui sont probablement éternelles et qui se trouvent au très fond de nous-mêmes, et qui, comme vous le dites souvent à la fin de chronique, sont d'hier, d'aujourd'hui, et probablement de demain encore.
On peut l'espérer.
Merci beaucoup, Michel Zinc. Je conclue en rappelant donc que l'ouvrage peut être commandé ou disponible évidemment en toute librairie, qu'il est édité aux éditions des Équateurs, que c'est une coédition avec France Inter, sur lesquelles ces chroniques ont été dites initialement. L'ouvrage s'appelle donc « Bienvenue au Moyen-Âge » par Michel Zinc. Encore, merci beaucoup de l'avoir écrit et d'être venu sur notre antenne.
Merci. Thank you.